9. Bruit que fait le plancher. C'est là qu'Eviranus entre, Gaclin le suit. Le mur d'enceinte étant presque partout détruit, cette porte, ancien seuil des marquis patriarches, qu'au-dessus de la cour exauce quelques marches, domine l'horizon et toute la forêt autour de son perron comme un gouffre apparaît. L'épaisseur du vieux roc de Corbus est propice à cacher plus d'un sourd et sanglant précipice. Tout le bourg est là, et la salle elle-même, dit-on, sont bâties sur des puits faits par le duc Platon. Le plancher sonne, on se sent au-dessous des abîmes. « Page, dit ce chercheur d'aventures sublimes, viens, tu vois mieux que moi, qui n'ai plus de bons yeux, car la lumière est femme et se refuse aux vieux. » Bah, vois toujours assez qui regarde en arrière. On découvre d'ici la route et la clairière. Garçon, vois-tu là-bas venir quelqu'un ? Gaclin se penche hors du seuil. La lune est dans son plein, d'une blancheur lueur, la clairière est baignée. Ouais, une femme à cheval, elle est accompagnée. De qui ? Gaclin répond, « Seigneur, j'entends les voix de deux hommes parlant et riant, et je vois trois ombres de chevaux qui passent sur la route. »« Bien, dit Eviranus, ce sont eux. Alors, pas, j'écoute. Tu vas partir d'ici. Prends un autre chemin, va-t'en sans être vu. Tu reviendras demain avec nos deux chevaux, frais, en bon équipage, au point du jour. » Alors, c'est dit, laisse-moi seul. Le page, regardant son bon maître avec des yeux de fils, dit, si je demeurais, ils sont deux. Non, je suffis, va. 10. Eviranus immobile. Le héros est seul sous ses grands murs sévères. Il s'approche un moment de la table où les verres et les nappes dorés et peints, petits et grands, sont étagés, divers pour les vins différents. Il a soif, les flacons tendent sa lèvre avide, mais la goutte qui reste au fond d'un verre vide trahirait que quelqu'un dans la salle est vivant. Il va droit aux chevaux, il s'arrête devant celui qui le plus près de la table étincelle, il prend le cavalier et l'arrache à sa selle. La panoplie en vin lui jette un pâle éclair, il saisit corps à corps le fantôme de fer et l'emporte au plus loin de la salle et, plié dans la cendre et la nuit, l'armure humiliée reste adossée au mur comme un héros vaincu. Eviranus lui prend sa lance et son écu, monte en selle à sa place et le voilà statue. Pareil aux autres, froid, la visière abattue, on n'entend pas un souffle à sa lèvre s'échapper, et le tombeau pourrait lui-même s'y tromper. Tout est silencieux dans la salle terrible. 11. Un peu de musique. Écoutez, comme un nid qui murmure invisible, un bruit confus s'approche, et des rires, des voix, des pas sortent du fond vertigineux des bois. Et voici qu'à travers la grande forêt brune, qu'emplit la rêverie immense de la lune, on entend frissonner et vibrer mollement, communiquant au bois son doux frémissement, la guitare des Mondinsbrück reconnaissable au grelot de son manche où sonne un grain de sable. Ici mêle la voix d'un homme, et ce frisson prend un sens et devient une vague chanson. Si tu veux, faisons un rêve, montons sur deux pas le froid. Tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante dans les bois. Je suis ton maître et ta proie, partons, c'est la fin du jour. Mon cheval sera la joie, ton cheval sera l'amour. Nous ferons toucher leur tête, les voyages sont aisés. Nous donnerons à ces bêtes une avoine de baisers. Viens, nos doux chevaux mensonges frappent du pied tous les deux, le mien au fond de mes songes et le tien au fond des cieux. un bagage nécessaire, nous emporterons nos vœux, nos bonheurs, notre misère et la fleur de tes cheveux. Viens, le soir brûler les chaînes, le moineau rit, ce moqueur entend le doux bruit des chaînes que tu m'as mises au cœur. Ce ne sera point ma faute si les forêts et les monts, en nous voyant côte à côte, ne murmurent pas « aimons ». Viens, sois tendre, je suis ivre. Oh, les vers taillis mouillés, ton souffle te fera suivre des papillons réveillés. L'envieux oiseau nocturne, triste, ouvrira son œil rond. Les nymphes, penchant leur urne, dans les grottes souriront et diront « mais sommes-nous fortes ?» C'est Léandre avec héros, en écoutant sa parole, nous laissons tomber notre eau. Allons-nous-en par l'Autriche, nous aurons l'aube à nos fronts. Je serai grand et toi riche, puisque nous nous aimerons. Allons-nous-en par la terre, sur nos deux chevaux charmants, dans l'azur, dans le mystère, dans les éblouissements. Nous rentrerons à l'auberge et nous parlerons, paierons l'hôtelier, de ton sourire de vierge, de mon beau jour d'écolier. Tu seras dame et moi comte. Viens, mon cœur s'épanouit. Viens, nous conterons ce conte aux étoiles de la nuit. La mélodie encore quelques instants se traîne sous les arbres bleuis par la lune sereine, puis tremble, puis expire, et la voix qui chantait s'éteint comme un oiseau se pose. Tout se tait. 12. Le grand Josse et le petit Zeno. Soudain, au seuil lugubre, apparaissent trois têtes joyeuses et nous sort une lueur de fête. Deux hommes, une femme en robe de drap d'or. L'un des hommes paraît 30 ans, l'autre est encore plus jeune, et sur son dos, il porte en bandoulière la guitare où s'enlace une branche de lierre. Il est grand et blond, l'autre est petit, pâle et brun. Ces hommes, qu'on dirait faits d'ombre et de parfum, sont beaux, mais le démon dans leur beauté grimace. Avril a de ses fleurs où rampe une limace. Mon grand Josse, mon petit Zeno, venez ici, voyez, c'est effrayant. Celle qui parle ainsi, c'est Madame Mahaut. Le clair de lune semble caresser sa beauté qui rayonne et qui tremble, comme si ce doux être était de ceux que l'air créé apporte et remporte en un céleste éclair. Passer ici la nuit, oh, certes un trône s'achète. Si vous n'étiez venu m'escorter en cachette, dit-elle, oh, je serais vraiment morte de peur. La lune éclaire auprès du seuil et dans la vapeur, un des grands chevaliers adossés aux murailles. Comme je vous vendrais à l'encan ces ferrailles, dit Zeno. Je le ferais si j'étais le marquis, de ce tas de vieux clous sortir des vins exquis, des galas, des tournois, des bouffons et des femmes. Et frappant ces terrains d'où sort le bruit des âmes, cette armure où l'on voit frémir le gantelet, calme et riant, il donne au sépulcre un soufflet. Ah, laissez donc mes aïeux, dit Mahaut, qui murmure. Vous êtes trop petit pour toucher cette armure. Zeno pâlit, mais Josse. Ça, des aïeux, j'en ris. Tous ces bons hommes noirs sont des nids de souris. Pardieu, pendant qu'ils ont l'air terribles et qu'ils songent, écoutez. On entend le bruit des dents qui rongent. Et dire qu'en effet, autrefois, tout cela s'appelait Ottokar, Otton, Platon, Béla. Hélas, la fin n'est pas plaisante et déconcerte. Soyez donc ducs et rois. Je ne voudrais pas, certes, avoir été colosse, avoir été héros, madame, avoir rempli de morts des tombereaux pour que, sous ma farouche et fière bourguignotte, moi, prince et spectre, un rat paisible me grignote. C'est que ce n'est point là votre état, dit Mahaut. Chantez, soit, mais ici ne parlez pas trop haut. Bien dit, reprend Zeno. C'est un lieu de prodige, et quant à moi, je vois des serpentes, des striges, tout un fourmillement de monstres s'ébaucher dans la brume qui sort des fentes du plancher. Mao frémit. Ce vin que l'abbé m'a fait boire va bientôt m'endormir d'une façon très noire. Jurez-moi de rester près de moi.
J'en réponds, dit Zos, et Zeno dit, « Oh, je le jure, soupons !»
13. Ils soupent. Et, riant et chantant, ils s'en vont vers la table.
« Je fête Georges Chambellan et Zeno connétable, dit Mao.
Et tous trois causent, joyeuses et beaux, elle sur le fauteuil, eux sur des escabeaux. Jos mange, Zeno boit, Mao rêve. La feuille n'a pas de bruit distinct qu'on note et qu'on recueille. Ainsi va le babil sans forme et sans lien. Jos par moments fredonne un chant tyrolien et fait rire ou pleurer la guitare. Les contes se mêlent aux gaietés fraîches, vives et promptes, et Mao dit « Savez-vous que vous êtes heureux ?»
Nous sommes bien portants, jeunes, fous, amoureux, c'est vrai.
De plus, tu sais le latin comme un prêtre, et Jos chante fort bien.
Oui, nous avons un maître qui nous donne cela par-dessus le marché.
Et quel est son nom?
Oh, pour nous, Satan, mais pour vous, péché, dit Zeno, caressant jusqu'en sa raillerie.
Ne riez pas ainsi, je ne veux pas qu'on rie.
Paix, Zeno. Parle-moi, toi, Jos, mon chambellan.
Madame Viridis, comtesse de Milan, fut superbe. Diane éblouissait le pâtre. Aspasie, Isabeau de Saxe, Cléopâtre sont des noms devant qui la louange se tait. Rhodope fut divine, et Rilésis était si belle que Vénus, jalouse de sa gorge, la traîna toute nue à la céleste forge, et la fit sur l'enclume, écrasée par Vulcain. Eh bien, autant l'étoile éclipse le sequin, autant le temple éclipse un morceau de décombre, autant vous effacez toutes ces belles ombres. Ces coquettes qui font des mines dans l'azur, les elfes, les péris ont le front jeune et pur, moins que vous, et pourtant le vent et ses bouffées les ont galamment d'ombre et de rayons coiffés.
Flatteur, tu chantes bien, dit Mao.
Jos reprend. Oh, si j'étais sous le ciel splendide et transparent, ange, fille ou démon, s'il fallait que j'apprisse la grâce, la gaieté, le rire et le caprice, Altesse, je viendrais à l'école chez vous. Vous êtes une fée aux yeux divins et doux, ayant pour un vil sceptre échangé sa baguette.
Mao songe.
On dirait que ton regard me guette. Tais-toi, voyons, de vous tous ce que je connais, c'est que Jos est bohème et Zeno polonais. Mais vous êtes charmant et pauvre, oui, vous l'êtes. Moi, je suis riche, eh bien, demandez-moi, poète, tout ce que vous voudrez.
Tout ?
Oh, je vous prends au mot, répond Jos, un baiser.
Un baiser ? Dit Mao, surpris en ce chanteur d'une telle pensée.
Savez-vous qui je suis ? Et fière et courroucée, elle rougit. Mais Jos n'est pas intimidé.
Oh, si je ne le savais, aurais-je demandé une faveur qu'il faut qu'on obtienne ou qu'on prenne?
Il n'est donc que de roi, ni baiser, que de reine.
Reine. Et Mao sourit.
14. Après souper. Cependant, par degrés, le narcotique éteint ses yeux d'ombre enivrée. Zeno l'observe, un doigt sur sa bouche, elle penche la tête et, souriant, s'endort, sereine et blanche. Zéno lui prend la main, qui retombe. « Elle dort, » dit Zéno. « Maintenant, vite, les tirons au sort. D'abord, à qui l'état ? Ensuite, à qui la fille ?» Dans ces deux profils d'homme, un œil de tigre brille. « Frère, » dit Joss, « parlons politique à présent. La Mao dort et fait quelques rêves innocents. Mes griffes sont dessus. Nous avons cette folle. L'ami de dessous terre est sûr et tient parole. Le hasard, grâce à lui, ne nous a rien ôté de ce que nous avons construit et comploté. Tout nous a réussi. Pas de puissance humaine qui nous puisse arracher la femme et le domaine. Concluons. Guerroyer, se chamailler pour rien, pour un oui, pour un non, pour un dogmarien dont le pape sournois ira dans la coulisse, pour quelques filles ayant une peau fraîche et lisse, des yeux bleus et des mains blanches comme le lait. C'était bon dans le temps où l'on se querellait pour la croix byzantine ou pour la croix latine, et quand Pépin tenait un synode à Leptine, et quand Rodolphe et Jean, comme deux hommes sous, glaive au poing, s'arrachaient leurs Agnès de deux sous. Aujourd'hui tout est mieux, et les mœurs sont plus douces. Frères, on ne se met plus ainsi la guerre aux trousses, et l'on sait en ami régler indifférent. As-tu des dés ? J'en ai. Bien, celui qui gagne prend le marquisat, celui qui perd à la marquise. Bien. Oh, j'entends du bruit. « Non, dit Zéno, c'est la bise qui souffle bêtement et qu'on prend pour quelqu'un. As-tu peur ? » ?»« Je n'ai peur de rien que d'être à jeun, répond Joss, et sur moi que les gouffres s'écroulent. » Finissons, et que le sort décide, les dés roulent. 4. Joss prend les dés. 6. Oh, je gagne tout net. J'ai trouvé la lusace au fond de ce cornet. Dès demain, j'entre en danse avec tout mon orchestre. Taxe partout, payé, la corde ou le séquestre. Des trompettes d'airain seront mes galoubets. Les impôts, oh, cela pousse en plantant des gibets. Zéno dit, bon, j'ai la fille, eh bien, je le préfère. Elle est belle, dit Joss. Pardieu, que vas-tu faire ? Un cadavre ? Et Zéno reprend. En vérité, la créature m'a tout à l'heure insulté. Petit, voilà le mot qu'elle m'a dit, cette femelle. Si l'enfer m'eût crié, béant sous ma semelle, dans la sombre minute où je tenais les dés, fils, les hasards ne sont pas encore décidés. Je t'offre le gros lot, la lusace aux 7 villes. Je t'offre 10 pays de blé, de vins et d'huile, à ton choix, ayant tout leur peuple diligent. Je t'offre la Bohême et ses mines d'argent. Ce pays le plus haut du monde, ce grand antre d'où plus d'un fleuve sort, où pas un ruisseau n'entre. Je t'offre le Tyrol au mont d'azur rempli. Et je t'offre la France avec les fleurs de lys. « Qu'est-ce que tu choisis ?» j'aurais dit, « la vengeance. » J'aurais dit, « enfer, plutôt que cette France et que cette Bohême et ce Tyrol si beau, mets à mes ordres l'ombre et les vers du tombeau. » Mon frère, cette femme absurdement marquise, d'une marche terrible où tout le Nord se brise, et qui dans tous les cas est pour nous un danger, ayant été stupide au point de m'outrager, il convient qu'elle meure. Et puis, s'il faut tout dire, je l'aime. Et la lueur que de mon cœur je la tire du tien. Tu l'aimes aussi, toi. Frère, en faisant ainsi, chacun dans notre emploi, les bohèmes pour mettre à fin s'est équipé, nous sommes devenus près de cette poupée, niais, toi comme un page et moi comme un barbon, et de galants pour rire, amoureux pour de bon. Oui, nous sommes tous deux épris de cette femme. Or, frère, elle serait entre nous une flamme. Tôt ou tard, et malgré le bien que je te veux, elle nous mènerait à nous prendre aux cheveux. Vois-tu, nous finirions par rompre notre pacte. Nous l'aimons, tuons-la.
Ta logique est exacte, dit Joss Rever. Mais quoi, du sang ici?
Zeno pousse un coin de tapis, tâte, prend un anneau, le tire, et le plancher se soulève, un abîme s'ouvre, il en sort de l'ombre ayant l'odeur du crime. Joss marche vers la trappe, et les yeux dans les yeux, Zeno muet la montre à Joss silencieux. Joss se penche, approuvant de la tête le gouffre. 15. Les oubliettes. S'ils sortaient de ce puits de lueur de soufre, on dirait une bouche obscure de l'enfer. La trappe est large, assez pour qu'en un brusque éclair, l'homme étonné qu'on pousse y tombe à la renverse. On distingue les dents sinistres d'une herse, et plus bas, le regard flotte dans de la nuit. Le sang sur les parois fait un rougeâtre enduit. L'épouvante est au fond de ce puits toute nue. On sent qu'il pourrit là de l'histoire inconnue, et que ce vieux sépulcre oublié maintenant, cuve du meurtre et plein de larves se traînant d'ombres tâtant le mur et de spectres reptiles.
Nos aïeux ont parfois fait des choses utiles, dit Joss. Et Zeno dit : Je connais le château. Ce que le bon Corbus cache sous son manteau, nous le savons, l'orfraie et moi. Cette bâtisse est vieille. On y rendait autrefois la justice.
Es-tu sûr que Mao ne se réveille point ?
Son œil est clos, ainsi que je ferme mon poing. Elle dort d'une sorte âpre et surnaturelle, l'obscure volonté du philtre étant sur elle.
Mais elle s'éveillera demain au point du jour,
dans l'ombre.
Et que va dire ici toute la cour, quand au lieu d'une femme, ils trouveront deux hommes?
Tous se prosterneront en sachant qui nous sommes.
Et où va cette oubliette? Au torrent, au corbeau, au néant, finissons. Ces hommes, jeunes, beaux, charmants, sont à présent difformes, tant s'effacent sous la noirceur du cœur le rayon de la face, tant l'homme est transparent à l'enfer qui l'emplit. Il s'approche. Mao dort comme dans un lit.
Allons !
José la saisit sous les bras et dépose un baiser monstrueux sur cette bouche rose. Zeno, penché devant le grand fauteuil massif, prend ses pieds endormis et charmants, et lascif lève la robe d'or jusqu'à la jarretière. Le puits, comme une fosse au fond d'un cimetière, est là, béant. 16. Ce qu'il faut devient plus difficile à faire. Portant Mao qui dort toujours, il marche lent, courbé, en silence, à pas sourds, Zeno tourné vers l'ombre et Joss vers la lumière. La salle aux yeux de Joss apparaît tout entière. Tout à coup, il s'arrête et Zeno dit « Eh bien !» Mais Joss est effrayant. Pâle, il ne répond rien et fait signe à Zeno qui regarde en arrière. Tous deux semblent changés en deux spectres de pierre, car tous deux peuvent voir là, sous un cintre obscur, un des grands chevaliers rangés le long du mur, qui se lève et descend de cheval. Ce fantôme tranquille sous le masque horrible de son homme vient vers eux, et son pas fait trembler le plancher. On croit entendre un dieu de l'abîme marcher. Entre eux et l'oubliette, il vient barrer l'espace. et dit, le glaive haut et la visière basse, d'une voix sépulcrale et lente comme un glas, « Arrête, Sigismond, arrête, Ladislas !» Tous deux laissent tomber la marquise de sorte qu'elle gîte à leurs pieds et paraît une morte. La voix de fer, parlant sous le grillage noir, reprend, pendant que Jos blêmit, lugubre à voir, et que Zeno chancelle ainsi qu'un mât qui sombre. Homme qui m'écoutez, il est un pacte sombre dont tout l'univers parle et que vous connaissez. Le voici. Moi, Satan, dieu des cieux éclipsés, roi des jours ténébreux, prince des vents contraires, je contracte alliance avec mes deux bons frères, l'empereur Sigismond et le roi Ladislas, sans jamais m'absenter ni dire « je suis là ». Je les protégerai dans toute conjoncture. De plus, je cède en libre et pleine investiture, étant seigneur de l'onde et souverain du mont, la mer à Ladislas, la terre à Sigismond, à la condition que, si je le réclame, le roi m'offre sa tête et l'empereur son âme. Serait-ce lui, dit Jos, spectre aux yeux fulgurants, es-tu Satan? Je suis plus et moins, je ne prends que vos têtes au roi des crimes et des grammes, laissant sous l'ongle noir se débattre vos âmes. Il se regarde, fou, brisé, courbant le front, et Zeno dit à Jos, ah, mais qu'est-ce que c'est donc? Jos bégaye, oui, la nuit nous tient, pas de refuge. De quelle part viens-tu? Qu'as-tu, spectre? Le juge. Grâce, la voix reprend. Dieu conduit par la main le vengeur en travers de votre affreux chemin. L'heure où vous existiez est une heure sonnée. Rien ne peut plus bouger dans votre destinée. L'idée inébranlable et calme est dans le joint. Oui, je vous regardais. Vous ne vous doutiez point que vous aviez sur vous l'œil fixe de la peine, et que quelqu'un savait dans cette ombre malsaine que Jos se fût Kaiser et que Zeno fut roi. Vous venez de parler tout à l'heure, pourquoi? Tout est dit, vos forfaits sont sur vous, incurables, n'espérez rien. Je suis l'abîme, ô misérable. Ah, Ladislas est roi, Sigismond est César. Dieu n'est bon qu'à servir de roue à votre char. Toi, tu tiens la Pologne avec ses villes fortes. Toi, Milan t'a fait duc, Rome empereur, tu portes la couronne de fer et la couronne d'or. Toi, tu descends d'Hercule, et toi de Spartibor. Vos deux tiares sont les deux lueurs du monde. Tous les monts de la terre et tous les flots de l'onde ont altiers ou tremblants, vos deux ombres sur eux. Vous êtes les jumeaux du grand vertigeux. Vous avez la puissance et vous avez la gloire, mais sous ce ciel de pourpre et sous ce ciel de noir, toute cette inaccessible et haute dignité, sous cet arc de triomphe au cintre illimité, sous ce royal pouvoir couvert de sacrés voiles, sous ces couronnes tant de perles et d'étoiles, sous tous ces grands exploits, prompt, terrible, fougueux, Sigismond est un monstre et Ladislas un gueux. Ô dégradation du sceptre et de l'épée, noire main de justice au cloaque trempé, devant l'hydre, le seuil du temple ouvre ses gonds, et le trône est un siège aux croupes des dragons. Siècle infâme, ô grand ciel étoilé, que de honte! Tout rampe, pas un front où le rouge ne monte. C'est égal, on se tait, et nul ne fait un pas. Ô peuple, millions et millions de bras, toi que tous ces rois-là mangent et déshonorent, toi que leur majesté les vermines dévore. Est-ce que tu n'as pas des ongles, vil troupeau, pour ces démangeaisons d'empereurs sur ta peau? Du reste, en voilà deux de prix, deux âmes telles que l'enfer même rêve étonné devant elles. Sigismond, Ladislas, vous étiez triomphant, splendide, inouï, prospère, étouffant. Le temps d'être punis arrive. À la bonne heure. Ah, le vautour, l'armoire et le caïman pleurent. J'en ris. Je trouve bon qu'à de certains instants, les princes, les heureux, les forts, les éclatants, les vainqueurs, les puissants, tous les bandits suprêmes à leurs fronts cerclés d'or, chargés de diadèmes, sentent l'âpre sueur de Josaphat monter. Il est doux de voir ceux qui hurlaient sangloter. La peur après le crime, après l'affreux, l'immonde, c'est bien. Dieu tout-puissant, quoi, des maîtres du monde, c'est ce que dans la cendre et sous mes pieds j'ai là. Ha, quoi, ceci règne? Quoi, c'est un César, cela? En vérité, j'ai honte, et mon vieux cœur se serre de les voir se courber plus qu'il n'est nécessaire. Finissons. Ce qui vient de se passer ici, prince, veut un linceul promptement épaissi. Ces mêmes des hideux qui virent le calvaire ont roulé, dans mon ombre indignée et sévère, sur une femme après avoir roulé sur Dieu. Vous avez joué là, roi, un lugubre jeu. Mais soit, je ne vais pas perdre de la morale ce moment que remplit la brume sépulcrale. Vous ne voyez plus clair dans vos propres chemins, et vos doigts ne sont plus assez les doigts humains pour qu'ils puissent tâter vos actions funèbres. À quoi bon présenter le miroir aux ténèbres? À quoi bon vous parler de ce que vous faisiez? Boire de l'ombre étant de nuit rassasié, c'est ce que vous avez l'habitude de faire, roi, au point de ne plus sentir dans votre verre l'odeur des attentats et le goût des forfaits. Je vous dis seulement que ce vil portefaix, votre siècle, commence à trouver vos altesses lourdes d'iniquité et de scélératesse. Il est là. C'est pourquoi je vous jette au monceau d'ordures que des ans emportent le ruisseau. Ces jeunes gens penchés sur cette jeune fille, j'ai vu cela, Dieu bon, sont-ils de la famille des vivants, respirant sous ton clair horizon? Sont-ce des hommes? Non, rien qu'à voir la façon dont votre lèvre touche aux vierges endormies, prince. On sent en vous des goules, des lamis, d'affreux êtres sorciers des cercueils soulevés. Je vous rends à la nuit. Tout ce que vous avez de la face de l'homme est un mensonge infâme. Vous avez quelques bêtes effroyables au lieu d'âme. Sigismond, l'assassin, Ladislas, le forban. Vous êtes des damnés en rupture de banc. Donc, lâchez les vivants et lâchez les empires. Hors du trône, tyran, à la tombe, vampire, chien du tombeau, voici le sépulcre, rentrez. Et son doigt est tourné vers le gouffre. Atterré, il s'agenouille. Oh, dit Sigismond, fantôme, ne nous emmène pas dans ton morne royaume. Nous t'obéirons, Dieu, qu'exiges-tu de nous? Grâce. Et le roi dit, ouais, nous sommes à genoux, spectre. Une vieille femme à la voix moins débile. La figure qui tient l'épée est immobile et se tait, comme si cet être souverain tenait conseil en lui sous son linceul d'airain. Tout à coup, élevant sa voix grave et hautaine, « Prince, votre façon d'être lâche me gêne.
je suis homme et non spectre. Allons debout, mon bras est le bras d'un vivant. Il ne me convient pas de faire une autre peur que celle où j'ai coutume. Je suis Eviradnus.
17. La massue. Comme sort de la brume un sévère sapin vieilli dans la penzelle, à l'heure où le matin, au souffle universel, passe des bois profonds balayant la lisière, le preux ouvre son casque, et hors de la visière, sa longue barbe blanche et tranquille apparaît. Sigismond s'est dressé comme un dogue en arrêt. Ladislas bondit, hurle, ébauche une huée, grince des dents et rit. Et comme la nuée résume en un éclair le gouffre pluvieux, toute sa rage éclate en ce cri « Mais c'est un vieux !» Le grand chevalier dit, regardant l'un et l'autre, « Roi, un vieux de mon temps vaut deux jeunes du vôtre. Je vous défie à mort, laissant à votre choix d'attaquer l'un sans l'autre, ou tous deux à la fois. Prenez au tas quelque arme ici qui vous convienne. Vous êtes sans cuirasse, et je quitte la mienne, car le châtiment doit lui-même être correct. » Eviradnus n'a plus que sa veste d'Utrecht. Pendant que, grave et froid, il déboucle sa chape, Ladislas, furtif, prend un couteau sous la nappe, se déchausse, et rapide et bras levés, pieds nus, il se glisse en rampant derrière Eviradnus. Mais Eviradnus sent qu'on attaque en arrière, se tourne, empoigne et tord la lame meurtrière, et sa main colossale étreint comme un étau le cou de Ladislas qui lâche le couteau. Dans l'œil du nain royal, on voit la mort paraître. « Je devrais te couper les quatre membres, traître, et te laisser ramper sur tes moyons sanglants. Tiens !» dit Eviradnus, « meurs vite !» Et sur ses flancs, le roi s'affaisse et blême et l'œil hors de l'orbite, sans un cri, tant la mort, formidable et subite, il expire. L'un meurt, mais l'autre s'est dressé. Le preux, en délassant sa cuirasse, a posé sur un pan son épée, et Sigismond l'a prise. Le jeune homme, effrayant, rit de la barbe grise. L'épée au poing, joyeux, assassin, rayonnant, croisant les bras, il crie « À mon tour, maintenant !» Et les noirs chevaliers, juges de cette lice, peuvent voir à deux pas du fatal précipice, près de Mao, qui semble un corps inanimé, Eviradnus sans armes et Sigismond armé. Le gouffre attend, il faut que l'un des deux y tombe. Voyons un peu sur qui va se fermer la tombe, dit Sigismond. C'est toi le mort, c'est toi le chien. Le moment est funèbre. Eviradnus sent bien qu'avant qu'il ait choisi dans quelque armure un glaive, il aura dans les reins la pointe qui se lève. Que faire ? Tout à coup, sur Ladislas gisant, son œil tombe. Il sourit, terrible, et se baissant de l'air d'un lion pris qui trouve son issue. « Eh ! Dit-il, je n'ai pas besoin d'autre massue. » Et prenant au talon le cadavre du roi, il marche à l'empereur qui chancelle d'effroi. Il brandit le roi mort comme une arme. Il en joue. Il tient dans ses deux poings les deux pieds et secoue au-dessus de sa tête en murmurant. Tout beau, cette espèce de fronde horrible du tombeau, dont le corps est la corde et la tête la pierre. Le cadavre éperdu se renverse en arrière, et les bras disloqués font des gestes hideux. Et lui crie « Arrangez-vous, prince, entre vous deux. Si l'enfer s'éteignait dans l'ombre universelle, on le rallumerait certes avec l'étincelle qu'on peut tirer d'un roi heurtant un empereur. » Sigismond, sous ce mort qui plane, ivre d'horreur, recule, sans la voir vers la lugubre trappe. Soudain le mort s'abat et le cadavre frappe, et Viradnus est seul. Et l'on entend le bruit de deux spectres tombant ensemble dans la nuit. Le preux se courbe au seuil du puits, son œil y plonge, et calme, il dit tout bas, comme parlant en songe, « C'est bien, disparaissez, le tigre et le chacal !» 18. Le jour reparaît. Il reporte Mao sur le fauteuil ducal, et de peur qu'au réveil elle ne s'inquiète, il referme sans bruit l'infernale oubliette, puis remet tout en ordre autour de lui, disant « La chose n'a pas fait une goutte de sang, c'est mieux !» Mais tout à coup la cloche au loin éclate, les monts gris sont bordés d'un long fil écarlate, et voici que, portant des branches de genêt, le peuple vient chercher sa dame, l'aube naît. Les hameaux sont en branle, on accourt et vermeille, Mao en même temps que l'aurore s'éveille. Elle pense rêver et croit que le brouillard a pris ses jeunes gens pour en faire un vieillard, et les cherche des yeux, les regrettant peut-être. Et Viradnus salue, et le vieux vaillant maître, s'approchant d'elle avec un doux sourire ami, « Madame, lui dit-il, avez-vous bien dormi ?»